Sophia, je vous propose de commencer cette session. Je vous souhaite la bienvenue donc à cette session sur émotions et décisions économiques. En général, quand on fait le lien entre les émotions et les choix économiques, il y a une image qui vient assez rapidement à l'esprit. Et je pense que si je vous demandais de fermer les yeux et de tout de suite me donner l'idée à laquelle vous pensez pour les émotions en économie, je fais le pari que pour la plupart d'entre vous, ça se passerait dans une salle de marché et vous penseriez à l'excitation des traders quand les cours de bourse montent et à leur affliction quand les cours de bourse s'effondrent. On pense souvent à cette image pour lier émotion et économie. Autrement dit, on a plutôt une vision assez négative des émotions. Les émotions qui s'opposeraient finalement sans doute à des bons choix ou qui pousseraient à des prises de risques excessives. Alors pendant cette session, on va évoquer plusieurs points, mais je voudrais insister sur deux aspects en particulier. Premièrement, les émotions sont d'une nature extrêmement, incroyablement diverse. Et il y a bien sûr des émotions individuelles, la peur, le regret, la déception, mais il y a aussi toute la palette des émotions sociales, la honte, la culpabilité, l'aversion à l'inégalité, la jalousie, l'envie. Voilà, donc il y a une énorme variété d'émotions et on peut se demander dans toutes ces émotions lesquelles facilitent la prise de décision et lesquelles entravent les choix ou l'efficacité de nos choix économiques. Et puis la deuxième question porte sur les liens entre raison et émotion. Alors bien sûr, les philosophes ont écrit des pages merveilleuses sur ces liens entre émotion et raison. Les économistes ont plutôt essayé de se débarrasser de la question des émotions pendant des décennies. Finalement, l'évolution de l'être humain aurait conduit à ce que nous devenions de moins en moins guidés par nos émotions et de plus en plus guidés par la raison. Les économistes ont pendant longtemps essayé d'évacuer tout ce qui pouvait rendre impur le raisonnement économique. Finalement, la dimension psychologique du raisonnement, c'était un peu considéré comme des scories qu'il fallait évacuer pour faire des bonnes prédictions économiques. Alors c'est un peu surprenant parce que finalement les pères de l'économie, si on pense à Adam Smith ou à David Hume, avaient mis en avant le rôle des sentiments moraux, le rôle des émotions et en particulier la capacité à ressentir les émotions que les autres perçoivent après avoir subi les effets de vos propres choix. Alors les choses ont changé depuis une bonne dizaine d'années maintenant. De plus en plus, les économistes essayent de réintégrer la question des émotions dans le raisonnement économique, en partie grâce à l'évolution des connaissances en psychologie sociale, psychologie cognitive, et puis grâce aux neurosciences, puisque les neuroscientifiques nous ont montré que les émotions nous aident parfois à prendre des décisions beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rationnelles. Et si on ne ressent pas d'émotions, par exemple de regret, eh bien, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas ajuster nos choix et nos modes de raisonnement. Donc, ce lien entre émotion et raison n'est pas aussi univoque qu'on peut le penser a priori. Les émotions peuvent aider à prendre de meilleures décisions, des décisions plus efficaces. Donc, la question qu'on doit se poser maintenant, et que je poserai à nos invités, ça va être d'essayer de discriminer quand nos émotions nous aident à prendre de bonnes décisions et quand ces émotions nous éloignent de la décision efficace, du point de vue individuel, du point de vue collectif. Alors, ce courant de l'économie qui se développe s'appelle maintenant l'économie comportementale. On essaye de voir les aspects cognitifs, les aspects affectifs et émotionnels qui permettent de prendre nos décisions. Ces modèles théoriques sont testés généralement grâce à des expériences de laboratoire ou des expériences de terrain et je pense que là aussi nos intervenants pourront vous donner des exemples diversifiés de ces questions. Voilà, donc je vous présente maintenant les quatre invités de cette matinée. Donc je commencerai par Louis Lévy-Garbois. Louis est professeur d'économie à l'Université de Paris 1. Il est chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Il est également président de la SAEB, qui est la Society for the Advancement of Behavioral Economics. Ses domaines de recherche portent sur la théorie de la consistance cognitive, sur l'économie de l'éducation également. Et donc, il nous parlera des liens entre émotions et décisions individuelles. Ensuite, je passerai la parole à Paul Seabright, qui est à ma droite. Paul est professeur à l'Université de Toulouse. Il est chercheur à l'IDEI et au CEPR à Londres. Il est spécialiste de microéconomie, s'intéresse aux organisations, s'intéresse également au développement. Et il a publié cette année la deuxième édition de son ouvrage intitulé « The Company of Strangers, A Natural History of Economic Life ». Et Paul nous parlera de certaines dimensions de cet ouvrage, donc sur nos relations avec les inconnus. Ensuite, Sacha Bourgeois-Gironde interviendra. Sacha n'est pas économiste, alors c'est pas un gros défaut, hein. Surtout qu'il travaille avec des économistes. Paul est philosophe. Sacha est philosophe. Et il s'intéresse aux dimensions cognitives et émotionnelles des décisions économiques. Il a publié un ouvrage sur la neuroéconomie chez Plon en 2008. Et donc son intervention portera en partie sur les aspects, ce que peut nous dire la neuroéconomie sur les choix économiques que nous faisons dans notre vie quotidienne. Il est chercheur à l'Institut Jean-Nicot à Paris et professeur à l'Université de Provence. Enfin, David Dickinson, à ma gauche. David est celui qui nous vient du plus loin, puisqu'il est professeur à Appalachian State University aux États-Unis, à Boone. David est économiste expérimentaliste et comportementaliste. Et donc, il nous parlera de ses travaux. Il travaille également sur des questions d'économie du travail, d'économie des ressources humaines. Mais aujourd'hui, il parlera de la dimension de ses travaux qui portent sur les effets de la privation de sommeil, du manque de sommeil, sur la qualité de nos décisions. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais me tourner vers Louis Lévy-Garbois. Et la première question que j'aimerais poser à Louis, c'est que savons-nous aujourd'hui des émotions comme... motivation de nos décisions individuelles? Est-ce que les émotions nous empêchent d'être rationnels? Ou plus exactement, quand est-ce que nos émotions nous aident à être rationnels et quand nous gênent-elles dans nos calculs économiques?
Merci Marie-Claire Duval. Oui, alors, donc tu as fait une excellente introduction. Donc, j'ai en fait reprendre et un petit peu développer ce que Marie-Claire nous a dit en introduction. Et je vais commencer par de manière assez didactique. Mon exposé sera peut-être le plus didactique des quatre. On va voir. Et je vais essayer de cadrer un petit peu le sujet, et en commençant par, au fond, une définition. Qu'est-ce qu'une émotion? Eh bien, en fait, je dirais que les émotions, ou qu'on appelle aussi les affects, décrivent tout ce que nous ressentons en face des événements de la vie. Plaisir, peine, joie, tristesse, amour, haine, puissance ou peur, honte ou fierté, satisfaction, frustration, sensation, humeur, sentiment. Vous voyez, j'emploie beaucoup de mots. Ce sont des mots qui soit décrivent des émotions particulières, soit des aspects spécifiques ou des degrés d'émotion. Les émotions, les affects donnent, au fond, un aperçu instantané des états du corps face à nos expériences, celles que nous vivons en ce moment. Elles se distinguent, les affects se distinguent, les émotions se distinguent des informations que les économistes étudient aussi beaucoup. Les informations reçues par un agent, quel qu'il soit, que ce soit une personne, que ce soit même une cellule du corps humain, émanent de son environnement extérieur. Et en ce sens, elles sont, on peut dire, objectives. Alors que les affects, les émotions, sont les effets corporels produits sur cet agent par les changements de son environnement ou par les nouvelles informations qu'il reçoit. Donc, en ce sens, les émotions sont subjectives pour l'agent qui les reçoit. Donc, vous connaissez sans doute, vous avez sans doute entendu parler de la distinction classique entre l'affectif et le cognitif. Cette distinction recoupe les vieilles distinctions cartésiennes entre l'âme et le corps, ou entre les émotions et la raison, que Marie-Claire Villeval tout à l'heure nous a rappelé dans son introduction. Donc on pourrait dire que le cognitif résume tous les effets in vitro de l'information et du raisonnement sur nos comportements, comme un observateur extérieur pourrait les reconstituer objectivement et froidement, c'est le terme qu'on emploie, on parle de froid dans ce cas-là, par rapport au chaud des émotions. L'affectif résume la trace subjective et chaude des changements, l'expression et les répercussions que ces changements entraîneront, on pourrait dire in vivo, sur nos comportements. Donc, on n'est pas sûr, au terme de cette petite introduction, que les émotions, l'affectif, puissent être séparés du cognitif, comme le voudrait la tradition cartésienne. L'information doit être relayée par le corps. Les sensations informent le corps des actions à entreprendre. Et pour reprendre une phrase tirée du premier ouvrage « L'erreur de Descartes » d'Antonio Damasio, qui est un de nos grands neuroscientifiques, qui a beaucoup apporté à ce sujet, « Les émotions ne sont pas un luxe. » Alors, la première chose à laquelle on pense, évidemment, puisque ça correspond à la tradition cartésienne, c'est est-ce que les émotions contre la raison ? Est-ce que les émotions s'opposent à la raison ? Alors, en effet, longtemps, elles ont été opposées à la raison. Agir sous l'emprise d'une passion, d'une émotion, ne pouvait être qu'irrationnel. Et on imagine, par exemple, que les émotions cohabiteraient, et c'est souvent la manière dont on explique cela aujourd'hui, les émotions cohabiteraient avec la raison dans notre cerveau. Elles seraient le vestige d'une évolution naturelle de notre cerveau qui aurait vu le lobe frontal, qui est le siège du raisonnement, se développer progressivement et tardivement par rapport au système limbique qui serait le siège des émotions. Donc l'homme serait en quelque sorte pourvu de deux mois, un peu comme le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein, il serait pourvu de deux mois qui sont souvent en conflit. Dans cette tradition, le problème psychologique principal qui est posé par la cohabitation de la raison et des émotions serait celui du contrôle de soi, c'est-à-dire de la force de notre volonté. Et il faudrait, pour arriver à contrôler, à se contrôler et arriver à ses fins dans la durée, les émotions en quelque sorte nous interdiraient, nous empêcheraient, feraient obstacle à l'atteinte de nos objectifs dans la durée. Il faudrait que l'homme apprenne à contrôler ses émotions, ses pulsions. Donc, vous savez que le contrôle de soi est un problème central dans toutes les religions, mais aussi dans la philosophie et dans la littérature. Maintenant, la nouvelle thèse, je dirais, qui a été notamment développée par Damasio, qui en tout cas se déduit de ses conclusions, c'est que les émotions induisent nos préférences immédiates. En effet, d'abord, je vais vous parler des justement d'une expérience que relate Damasio dans son ouvrage, et qui est l'histoire de Phineas Gage. L'histoire de Phineas Gage qui se vécut au XIXe siècle et qui survécut à un accident terrible. Dans la forêt, je crois qu'il reçut une barre de fer qui lui traversa le crâne de haut en bas. Et en fait, il ne mourut pas, il survécut, et on crut même qu'il allait, miracle, retrouver ses facultés. Et puis on s'aperçut qu'il avait perdu toute faculté d'émotion, mais qu'il avait retrouvé ses facultés intellectuelles. Il était tout à fait capable de raisonner, de comprendre les situations. Mais, bizarrement, il était devenu incapable de prendre des bonnes décisions, et sa vie se transforma peu à peu en enfer. Damasio a décrit l'histoire de Phineas Gage et a même retrouvé exactement le cheminement, je dirais, de sa barre de fer, hein, sur des archives. Et il a été impressionné par ce cas parce que lui-même a rencontré un autre cas similaire qu'il a dénommé dans son livre Elliot. Elliot, comme Phineas Gage, était devenu incapable de décider parce que privé d'émotion. Donc Damasio en conclut que les émotions ont un contenu au fond cognitif et qu'elles nous servent souvent à faire des choix rationnels. Les émotions ne sont donc pas un luxe. En réalité, les pulsions préfigureraient nos actions immédiates. Un autre grand psychologue antérieur, Zajonc, en 1980, arrive à peu près à la même conclusion, en fait. Il observe que de nombreuses décisions sont prises sur le mode affectif et impulsif, sans raisonner, et que les émotions nous poussent à agir, souvent sous la forme de tout ou rien. Donc Elliot, Phineas Gage, avaient conservé leurs facultés intellectuelles, cognitives, mais privées d'émotions, ils ne savaient plus décider. En langage économique, nous pourrions dire qu'ils avaient perdu ce que nous, économistes, nous appelons les préférences. Ils avaient le raisonnement, mais ils n'avaient plus le préférence qui permet de passer à l'acte. Donc les émotions seraient, en quelque sorte, des préférences en acte. Et en ce sens, les émotions nous aident souvent à prendre des décisions rationnelles. La peur nous fait éviter le danger. Le plaisir nous fait rechercher le meilleur moyen de l'assouvir. Mais évidemment, sous le coup d'une émotion trop forte, il semble que la raison soit inhibée et que nous perdions le contrôle de nous-mêmes. Donc il y a peut-être des limites à l'aspect bénéfique, au rôle bénéfique que jouent les émotions sur notre raisonnement. Et ceci, cet excès d'intensité émotionnelle qui inhibe le raisonnement, correspond assez bien d'ailleurs à ce que une loi de la psychologie, qui est la loi de Yerkes-Dodson, qui a été publiée en 1908, selon laquelle la performance suit une courbe en U inversée, avec un maximum, en fonction de l'intensité du stimulus. La performance croît d'abord avec l'intensité de ce stimulus. Il faut un certain niveau d'éveil émotionnel pour prendre sa décision, pour être motivé par sa décision, avant de se mettre à décroître au-delà d'un certain seuil. Alors maintenant, je vais dire un mot juste, je vais prendre un ou deux exemples à partir d'un jeu célèbre en économie et en économie comportementale, qui est le jeu de l'ultimatum. Alors je le décris en deux mots, hein, parce qu'il est très simple, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le jeu de l'ultimatum, hein, ça évoque l'ultimatum, un ultimatum par exemple syndical qui serait adressé à un patron. C'est un jeu en deux étapes qui se joue entre deux joueurs. Le premier joueur reçoit une somme, par exemple 10 euros, à répartir à sa guise entre les deux joueurs. Alors, l'offre de ce premier joueur est à prendre ou à laisser par le deuxième joueur. Soit le deuxième joueur l'accepte, bon, tout va bien, il prend ce qu'on lui donne, soit il la rejette, mais alors l'argent est perdu pour tout le monde. Alors, la solution rationnelle, celle que prône la théorie des jeux en économie, serait pour le premier joueur de s'adjuger presque tout, par exemple 9 euros, et de laisser les miettes au second joueur, qui devrait les accepter, parce que pour quelqu'un en économie, pour une personne rationnelle en économie, il vaut mieux quelque chose, même des miettes, que rien. Ça, ce serait au fond le raisonnement cognitif. Maintenant, que font les gens ? Donc, c'est-à-dire que sachant cela, le premier joueur ne va rien offrir. Voilà ce que prédirait la théorie économique, ou presque rien offrir. Mais en réalité, ce n'est pas ce que font la plupart des premiers joueurs. La plupart divisent le gâteau, disons, partagent le gâteau presque en deux moitiés. Mais ils le font, ils savent pourquoi ils le font. Ils le font par un souci de justice, nous dirions, mais aussi parce que finalement, s'ils ne le faisaient pas, c'est-à-dire s'il y en a qui ne le font pas, s'ils baissent la part donnée au second, s'ils ne laissent que des miettes au second joueur, eh bien, on s'aperçoit, expérimentalement, empiriquement, on s'aperçoit que, bien souvent, le deuxième joueur se met en colère. Et sous le coup de la colère, tout simplement, il rejette cette offre. Voilà un exemple de comportement qui ne peut s'expliquer véritablement que par cette émotion assez forte, la colère. Voilà. Eh bien, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que les émotions, pour arriver à les comprendre dans le court terme, elles sont causées par des surprises. Le jeu de l'ultimatum vient de le confirmer. Vous voyez qu'au fond, ce qui se passe, c'est que le second joueur, comme le premier joueur, au fond, s'attendent à ce que le gâteau, à ce que le partage se fasse de manière assez égale. Et lorsqu'il ne se fait pas comme il était attendu, surprise, le second joueur peut, a tendance à réagir de manière plus ou moins forte, sous l'emprise de la colère, ou éventuellement, dans certains autres cas, sous l'emprise même d'un raisonnement, mais à punir le premier joueur indélicat. Bon, pour montrer que le lien est très affectif et qu'on peut réagir sous le coup d'une émotion simplement pour des raisons affectives, même si, quand il n'y a pas de contenu cognitif, eh bien, cette expérience du jeu de l'ultimatum a été refaite par une psychologue, Blount, contre un ordinateur. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer, le premier joueur soit une personne en chair et en or, c'était un ordinateur. Eh bien, même lorsque c'est un ordinateur, évidemment, on est un petit peu plus indulgent envers un ordinateur qu'envers une personne en chair et en os, parce qu'on ne s'attend pas à ce que l'ordinateur vous donne la moitié, puisqu'il décide au hasard, enfin du moins il est programmé pour cela. Donc on est un peu plus indulgent, mais même ainsi, les gens tendent à refuser, même contre un ordinateur, des offres jugées trop basses. Il y a bien d'autres exemples de tels comportements. Alors comme je vais peut-être pas vous donner tous ces exemples parce que sinon je ne laisserai pas assez de place aux autres intervenants, je vais dire peut-être juste l'exemple du sentiment d'injustice. Voilà une expérience toute simple. Vous êtes au Canada, les hivers sont rigoureux, et puis vous savez qu'il faut de temps en temps, après une tempête à neige, il faut déneiger devant chez soi. Enfin, il faut avoir une pelle à neige pour déblayer devant chez soi. Et on a été un petit peu imprudent, on n'a pas acheté sa pelle à neige. Et après une tempête de neige, alors que la pelle à neige vaut au marchand du coin 15 dollars, tout d'un coup, après une forte tempête, le lendemain matin, le prix monte et elle vaut 20 dollars. Eh bien, Que disent les gens interrogés sur ce point, leur sentiment, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste? Eh bien, 82% des gens dans cette situation disent c'est injuste, inacceptable. Donc, vous voyez, ce sentiment un peu d'injustice, qui est au fond un peu comme un sentiment de colère, c'est la même chose, c'est une émotion, eh bien, est encore une fois causé, dans mes deux exemples, ou mes trois exemples, il est causé par cet écart inattendu, surprenant, entre la réalité, 20 $, et l'attente normative, 15 $, c'est-à-dire cette surprise qui peut être parfois bonne, mais dans les exemples que j'ai donnés, était plutôt mauvaise. Voilà. Donc, pour conclure là-dessus, les sensations de plaisir ou de peine, de satisfaction ou d'insatisfaction, on peut les analyser comme une préfiguration des décisions à venir. Au fond, les émotions, ce sont des préférences en acte, comme des intentions, ce que nous avons immédiatement l'intention de faire. Par exemple, un jeune, on prend un exemple que nous connaissons tous, malheureusement, un jeune en situation d'échec scolaire, il s'attendait à réussir, il espérait réussir, puis il échoue, ça ne marche pas. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va être insatisfait, frustré de l'école, il n'aimera pas l'école, et éventuellement, ça veut dire ne pas aimer l'école, ça veut dire qu'il veut faire autre chose que l'école, mais il doit y rester à l'école. Donc, autre chose, ça veut dire qu'il n'y a pas 36 solutions pour lui, il va se convertir, si je dirais, à d'autres comportements qui sont ce qu'on appelle les conduites à risque, qui lui procureront des satisfactions immédiates, mais évidemment au détriment de son avenir. Voilà. Alors, pour conclure, après avoir vu les effets à plus court terme des émotions, regardons les effets à long terme. Comment on s'adapte au choc de la vie? Eh bien, donc si les émotions ont des effets à court terme, comme ceux que je viens de décrire, qui peuvent être parfois violents, eh bien, en réalité, on s'aperçoit qu'à long terme, très souvent, pas toujours, mais très souvent, les gens résistent et s'adaptent aux chocs de la vie, c'est-à-dire à des chocs affectifs très importants, comme par exemple, ça peut être un deuil, une perte d'emploi, ou bien d'autres. Bon. Donc ces effets, ces chocs plus ou moins importants, on s'aperçoit qu'ils ont, et de façon parfois surprenante, en moyenne, peu d'effets sur le bonheur ou sur la satisfaction, telle que les gens la déclarent, à long terme. C'est ce qu'on appelle l'effet de résilience, qui a été popularisé notamment par les travaux du psychanalyste Boris Cyrulnik en France. Donc, par exemple, après un délai d'ajustement, évidemment, le deuil, c'est le deuil, sur le moment, c'est très très dur, mais les personnes s'adaptent. Donc, c'est le phénomène de l'adaptation. Et, par exemple, une expérience surprenante est la suivante. Des personnes qui ont gagné à la loterie, le gros lot, évidemment, sur le moment, elles sont extrêmement joyeuses, heureuses, mais quand on les interroge au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas plus heureuses, ou à peine plus heureuses, en moyenne, que vous et moi, je dirais, enfin, qui n'avons pas gagné. Et inversement, des personnes, pour prendre un événement cette fois-ci malheureux, des personnes paraplégiques qui ont été paralysés après un accident automobile, par exemple, eh bien, en moyenne, quelques temps après, bien sûr, pas tout de suite, évidemment, mais quelques années après, peut-être, on s'aperçoit qu'elles ne se déclarent pas moins heureuses ou à peine moins heureuses en moyenne que vous et moi. Donc, c'est une expérience de Breckman et autres en 1978, et évidemment, c'est assez surprenant. Donc on pourrait dire qu'au bout d'un certain nombre de périodes, la préférence qui est exprimée par les émotions dépend au fond juste, elle dépend de quoi? Elle dépend de la préférence juste après le choc, le deuil, le gain de la loterie ou de ce que vous voulez, et de la préférence moyenne depuis le choc, la moyenne de tout ce qui s'est passé depuis. Et si l'adaptation est rationnelle, l'effet initial du choc va s'amortir et tendre à être remplacé par l'effet de la préférence moyenne après le choc. Or, le fait d'avoir gagné à la loterie ou d'être devenu paraplégique a changé non seulement la situation personnelle, mais aussi, dans un, en bien ou en mal, malheureusement, les alternatives. Ce qui fait qu'en moyenne, la situation relative de celui qui a subi le choc, quelque temps après, ne dépend presque plus de ce choc. Il s'est adapté à sa nouvelle vie. Voilà, et je conclurai par cela pour laisser la parole à mes camarades.
Merci beaucoup.
Donc, cette première présentation nous montre qu'effectivement, les émotions participent de la motivation de nos choix individuels. Mais en même temps, l'individu ou l'agent économique est de plus en plus un primate social. Hein, c'est-à-dire que nous interagissons dans des réseaux de plus en plus étendus, avec de plus en plus grand nombre d'inconnus. Pensez au réseau de type Facebook, ou au fait que vous n'hésitez pas à entrer votre numéro de carte bleue sur Internet quand vous commandez un produit à un particulier qui peut se trouver dans n'importe quel coin du monde. Donc nous interagissons de plus en plus avec des inconnus. Alors ça, c'est un petit peu surprenant parce que si on regarde là aussi en termes d'évolution, nos ancêtres cueilleurs ou chasseurs considéraient l'inconnu comme une source de danger et qui suscitait beaucoup d'émotions négatives. Et donc la question que je souhaiterais poser à Paul Seabright maintenant est, est-ce que nos émotions nous aident à gérer ces réseaux ou notre insertion dans des réseaux d'inconnus de plus en plus étendus, de plus en plus larges? Est-ce que les émotions aident à construire la confiance, et si oui, de quelle manière?
Merci Marie-Claire. J'aimerais dire, pour suivre le thème qui a été soulevé par mon cher collègue, que même s'il m'assure que mon bonheur va revenir à un niveau normal à long terme, sur le coup du moment, je suis très heureux d'être avec vous. J'aimerais commencer en faisant travailler un petit peu la salle, parce que je trouve qu'il faut quand même une répartition équitable de la tâche. Donc je vais vous poser une question. Que se passe-t-il dans cette photo ? J'aimerais une réponse rapide. Ne réfléchissez pas trop, n'attendez pas le micro qui se balade. Dites-moi, il s'agit de quoi ?
Un marché.
Un marché, oui, voilà, on est chez les économistes, c'est un marché. Mais bon, la question peut-être un peu plus difficile, c'est qui achète, qui vend ? Plus fort s'il vous plaît, je ne vous entends pas. Qui vend ?
Comment ?
L'enfant vend. Je pense que vous avez raison. Comment savez-vous ? Comment ? L'attitude, c'est-à-dire ? Plus fort, ce qui... Il est en écoute ? Comment savez-vous qu'il est en écoute ? Ses oreilles, vous... Ah, c'est son regard, voilà. Alors, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Vous m'avez fait une réponse qui est tout à fait surprenante. Parce qu'après tout, c'est très rare que les enfants vendent. Enfin, dans nos pays. Et même en Afrique, je vous assure que les enfants vendent beaucoup moins que les adultes. Vous m'avez dit tout de suite que c'était l'enfant qui vendait. Je crois que vous avez raison. Et puis vous avez réfléchi un petit peu, vous avez essayé de... Et vous avez parlé d'abord d'écoute, mais en fait, ce n'est pas ses oreilles. Ce sont ses yeux. Et je vous fais remarquer également que la position de ses yeux est très, très difficile à cerner. C'est des tout petits indices. Hein. Et qui achète ? La femme qui, avec le petit truc en blanc, oui, peut-être. Et pourquoi encore ?
Parce que le mot sera, c'est la bière.
Oui. D'accord. Donc, vous non, je crois que c'est très bien, c'est une bonne inférence, mais en fait, c'est aussi l'attitude des yeux de la femme en blanc. Alors, donc, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que, tout d'abord, vous avez saisi très très rapidement les relations économiques entre les agents dans cette situation. Ensuite, vous l'avez fait tellement vite que ça vous a pris un petit moment pour pouvoir expliciter la base de votre raisonnement. Donc, alors, finalement, ce n'est pas très surprenant. Les relations sociales entre les gens sont au cœur de notre société et ont été au cœur de notre société depuis notre évolution et depuis l'époque des chasseurs et cueilleurs. Or, peut-être que les marchés, dans le sens que nous les connaissons maintenant, n'étaient pas aussi développés, ils n'existaient pas, à vrai dire, chez les chasseurs-cueilleurs, mais les relations économiques, qui donne, qui prend, qui rend, qui demande, tout cela était extrêmement développé, c'était à la base de notre vie sociale en tant que chasseurs-cueilleurs. Et votre capacité de cerner les relations sociales et de les appliquer à une construction des relations économiques a été d'une sophistication épatante. Vous avez été capable de cerner les relations tellement rapidement que ça vous a un peu échappé d'expliciter votre raisonnement. Donc votre raisonnement a été plus ou moins inconsciente et plus ou moins sous-jacente. Et ça montre à quel point votre cerveau a été formé par la sélection naturelle de constater les relations économiques dans une situation sociale. Je vais maintenant vous demander de regarder une deuxième photo. Que se passe-t-il ici ? C'est quoi qu'elle exprime ? C'est la joie ? C'est le bonheur ? Plutôt la colère, je dirais, oui. Oui, je dirais plutôt la colère. Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas interrogé, j'ai gardé mes distances. Mais voilà peut-être quatre autres facettes de la colère. Elles ne sont pas identiques. Je dirais qu'il faut même... Ça montre que la colère peut prendre plusieurs formes. Mais en regardant toutes ces photos et en réfléchissant sur la première photo, dans la première photo... Vous avez pu constater quelque chose de remarquable, c'est que les gens, non seulement vous avez été d'une rationalité remarquable, parce que vous avez pu très très rapidement cerner les relations, mais les gens, les participants aussi, ils utilisent leur cerveau, la partie cognitive de leur compétence, pour repérer très très rapidement qui sont les gens qui sont importants pour eux, quelles sont les relations avec eux. Alors là, c'est un peu moins évident. Hein? Est-ce que vous penseriez que ces personnes sont sous l'influence d'un comportement qu'on pourrait dire raisonnable, rationnel ? Enfin, je ne sais pas, quel est votre avis ? Mais c'est vrai qu'en regardant ces photos, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un peu irrationnel. Et c'est vrai, pour reprendre le thème de mon confrère, qu'on a tendance à penser que les émotions sont irrationnelles, que sous leur influence, sous leur emprise, on arrive beaucoup moins bien à nous comporter d'une façon raisonnable. Maintenant, je vais faire regarder quelques photos supplémentaires d'une émotion un peu différente. C'est plus la colère, là, je crois. Alors là, on a des... On dirait, je ne sais pas si vous avez des descriptions, quelles sont les émotions qui sont exprimées dans ces visages. C'est plutôt, je dirais, la bienveillance, c'est l'affectif positif, comme diraient les psychologues dont l'esprit de la poésie a un peu été perturbé. Voilà. Donc, la partie devoir en salle terminée, c'est maintenant la partie pédagogie. J'aimerais vous faire avaler une hypothèse sur l'origine évolutionnaire de nos émotions. Tout d'abord, un constat que l'homme, l'homo sapiens, l'être humain, est l'animal qui a construit sa vie par excellence sur la coopération. Alors, je mets de côté les insectes sociaux comme les fourmis, les abeilles, parce que nous savons que leur coopération est très particulière et surtout est basée sur des liens de parenté très proches entre les individus. Mais nous, l'être humain, on a une relation de coopération qui est absolument extraordinaire. Quand je pense au nombre, à l'équipe qui a dû travailler pour me faire venir ici à Lyon, à partir du chauffeur de taxi qui m'a pris hier à Toulouse, qui le conducteur, enfin le toute l'équipe pour l'avion, jusqu'à la personne qui a fabriqué le croissant que j'ai mangé ce matin et la tasse de café. Je suis arrivé ici, vous sans doute, vous aussi, vous êtes levé ce matin, vous avez pris, je ne sais pas, le métro, le bus. Tout cela sont des gens qui ont fait un travail extraordinaire pour vous et pour la grosse plupart, je suppose, vous ne les connaissez même pas. Ce sont des inconnus. Or, donc, ça c'est la société moderne, mais même dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, la complexité de la coopération entre les êtres humains dépasse de très très loin ce qu'on voit chez les autres primates sociaux. Et c'est dû en grande partie à la grande étendue de notre vie, au fait que nos petits, nos enfants sont dépendants pendant une période beaucoup plus longue que les enfants des autres espèces. Par exemple, un bébé chimpanzé est dépendant de sa mère et que de sa mère, parce que le père, franchement, il s'en fiche. Le petit chimpanzé, il est dépendant pour une période d'entre 4 et 5 ans. Et que de sa mère. Un enfant dans une société de chasseurs-cueilleurs est dépendant jusqu'à l'âge de 18 ou de 20 ans. Vous posez la question, mais déjà à 13 ou 14 ans, il est costaud, il peut se débrouiller. Oui, mais il mange beaucoup plus qu'il ne consomme. Et donc, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qu'on a pu étudier, les jeunes sont dépendants pendant très longtemps et dépendent de la contribution non seulement de leur mère, mais de leur père, de leurs grands-parents, des oncles, des tantes, toutes les personnes dans le groupe. Or, cette coopération qui est remarquable, qui montre que l'être humain a colonisé, si on peut dire, une niche évolutionniste qui est totalement unique dans la nature, cette coopération a besoin de confiance, c'est-à-dire... Il y a l'un qui fait quelque chose pour l'autre, qui lui donne un peu de viande ou un peu de nourriture et qui en reçoit plus tard. Cette coopération a besoin de confiance. Si vous me donnez de la viande, comment savez-vous que je vais vous en rendre plus tard? Vous avez besoin de savoir quelque chose sur moi. Qu'est-ce que vous avez en l'occurrence? Bon, dans la société moderne, nous savons que la réponse est autre chose. Vous avez un billet de 20 euros, le gentil marchand qui m'a fourni mon croissant ce matin, il n'a pas eu besoin de s'interroger sur est-ce que j'allais lui rendre un croissant dans une semaine. Non, je lui rends un billet de 20 euros. Mais dans une société de chasseurs-cueilleurs où il n'y a pas de billet de 20 euros, il a besoin d'autre chose. Qu'est-ce qu'il a? Il a ma promesse. Alors que vaut ma promesse? C'est juste des paroles. Et rien que des paroles. Vous pouvez vous dire, bah oui, une promesse, mais après tout, s'il me donne de la nourriture et je lui promets de lui en rendre une semaine plus tard et je ne le fais pas, il va me menacer de quelque chose. Mais que vaut ces menaces? Les menaces, c'est coûteux. Alors, ça peut s'appliquer aussi à nos sociétés modernes. Imaginez que vous avez emprunté de l'argent de deux personnes, en l'occurrence de Marie-Claire et de moi-même. Ok, alors... Vous avez, bon, la situation est un peu difficile pour vous. Vous interrogez, est-ce que vous pouvez vraiment rendre l'argent à nous deux? Et vous nous regardez. Alors, Marie-Claire, je vous assure, c'est une personne, il n'y a pas plus raisonnable. Vous allez lui dire, écoutez, ça a été difficile pour moi, elle est tellement raisonnable, elle est tellement gentille, elle risque de dire, oui, effectivement, les choses ont été difficiles pour vous. Mais je vous préviens que si vous venez vers moi et vous me dites que vous ne pouvez pas me rendre mon argent, je vais me mettre en colère. Et face à ma colère, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est à Marie-Claire ou à Paul qu'il faut que je rende l'argent? J'espère que je vous pencherai un petit peu vers moi. Enfin, désolé Marie-Claire, mais j'espère que vous n'avez pas trop de enfin, voilà. Donc la colère va m'être utile. Vous reconnaîtrez le risque de ma colère et ça va créer une augmentation de la fiabilité de votre promesse de me rendre l'argent. Voilà. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que Marie-Claire étant quelqu'un de très raisonnable, elle va se dire, bah oui, je vois le raisonnement. Ce serait quand même utile que je me mette en colère. Donc elle va vous promettre qu'elle se mettra en colère. Et c'est là qu'il y a l'enjeu le plus difficile. Parce que la colère n'est pas si facile à fabriquer que ça. Essayez. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait se mettre en colère dans la salle. Peut-être quelqu'un que je suis arrivé à ennuyer. Non ? Bon, même pour l'expérience, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien se mettre en colère ? J'aimerais bien, vous me faciliterez la tâche. Bon, je vous trouve assez peu animé quand même. Mais, moralité, la colère n'est pas si facile à fabriquer que ça. C'est difficile, c'est coûteux. Donc, la clé de la crédibilité, c'est que les émotions sont utiles, que ce soit la colère qui rend crédibles les menaces, ou la bienveillance, la volonté intrinsèque et naturelle de rendre à la personne ce qu'on lui doit, qui facilite la crédibilité des promesses. Mais ces émotions ne peuvent pas se fabriquer sur l'emprise d'un raisonnement purement cognitif. C'est-à-dire qu'elles sont coûteuses, ces émotions, et vous ne les produisez pas, plutôt vous ne les produisez que si vous avez les vraies intentions qui sont sous-jacentes. C'est-à-dire, vous ne produisez pas l'émotion de bienveillance envers quelqu'un que si vous avez vraiment l'intention de vous comporter envers lui d'une façon bienveillante. Également, vous ne fabriquez pas la colère que si vous avez la vraie intention, la vraie possibilité de vous comporter envers lui d'une façon coléreuse. Et je vais conclure en vous donnant l'exemple du sourire. Le sourire est connu, il y a un livre remarquable de Charles Darwin, qui est beaucoup moins connu que L'origine des espèces et qui a été en rupture de stock pendant presque un siècle, mais qui a été réédité aux années 60, qui s'appelle L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Enfin, je ne sais pas si la traduction est exacte. Et il a beaucoup traité du sourire, et il s'est appuyé sur le travail d'un psychologue français qui s'appelait Duchenne, qui avait démontré que les sourires sont souvent perçus comme tombant dans deux catégories, la catégorie du sourire authentique et du sourire faux. Alors, le sourire faux, je le fais très facilement, et le sourire faux n'utilise que les muscles qui sont autour de la bouche. En revanche, le sourire authentique utilise les muscles qui sont autour des yeux. Et il se trouve que le sourire inauthentique est très facile à produire. Je le fais chaque fois que je vais me faire des photos d'identité. Mais, pas en France, parce qu'en France, vous interdisez le sourire. Je trouve ça un peu dommage. Mais en Grande-Bretagne, les photos d'identité, le sourire est autorisé. Mais ça n'aide pas beaucoup, parce que j'ai l'air un peu d'un serial killer dans mes photos d'identité. Le sourire authentique, par contre, est très difficile. Et pour vous montrer ça, je vais vous montrer trois photos de sourires. J'aimerais que vous essayiez de deviner quels sont les sourires authentiques et quels sont les faux. Donc, ben, attendez les trois. Hein. Bon, non. Voilà, on va laisser ça pour la suite. Je vais pas me prononcer là-dessus. Je vais vous faire essayer de vous expliciter une petite hypothèse et vous, dans les 2-3 minutes qui me restent, vous raconter très rapidement une expérience que nous avons faite ici à Lyon grâce au laboratoire de Marie-Claire sur le rôle, disons, rationnel du sourire. Le sourire authentique a trois qualités, c'est notre hypothèse, qui lui rend possible un rôle clé, enfin de clé de voûte dans la coopération sociale. Tout d'abord, le sourire authentique est coûteux, c'est-à-dire on ne peut pas le faire facilement, mais on le fait plus fiablement quand les enjeux sont plus élevés. Donc imaginez-vous par exemple dans un entretien d'embauche, si vous avez vraiment envie d'avoir ce travail, ce job, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'être sympathique avec la personne, vous essayez de vous projeter dans la situation de la personne, vous essayez de comprendre la personne qui est en face de vous. Il ne suffit pas juste de faire un rictus comme ça, automatique. vous essayez quand même de comprendre la personne qui est en face de vous. Vous faites un vrai travail de compréhension de la situation de la personne pour vous aider plus facilement à vous détendre, plus facilement à être bienveillant envers cette personne et de sourire de façon authentique. Mais c'est difficile et vous ne le faites pas pour un oui ou pour un non. Vous le faites plus facilement pour un travail dont vous avez vraiment envie. Deuxième partie de l'hypothèse, que le sourire authentique est efficace. Ça, on le sait, il y a beaucoup de travaux, mais je vais vous raconter très rapidement ce que nous avons pu faire. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive à émettre un sourire qui est perçu comme authentique, il conduit à une volonté à la coopération chez la personne à qui il est adressé. Ça, on voit, vous avez vu les personnes qui souriaient de façon très bienveillante dans les premières photos que je vous ai montrées. Et c'est vrai que ça donne envie d'être sympathique avec la personne. Et troisième élément, le sourire authentique est un signal honnête de la fiabilité. C'est-à-dire, on le trouve plus souvent chez les personnes à qui on peut véritablement faire confiance. Et justement, je vais vous dire que nous avons, parce que je ne peux pas vous montrer sous contrôle de Marie-Claire, que nous avons pu faire un jeu de confiance où il s'agissait de savoir si les gens étaient vraiment capables de, enfin, s'ils voulaient faire confiance aux autres en leur envoyant des sommes d'argent dans l'espoir d'en recevoir une partie après que l'argent ait été triplé. Nous avons demandé aux personnes à qui il s'agissait de faire confiance ou non de faire un clip vidéo. Et nous avons montré le clip et nous avons demandé aux personnes qui les visionnaient d'envoyer l'argent ou pas et de nous faire un debriefing sur les qualités du clip qui les avait conduits à prendre cette décision. Et ce que nous avions trouvé, c'est que les trois éléments de l'hypothèse étaient confirmés, c'est-à-dire lorsque les enjeux étaient plus élevés, les gens qui faisaient des clips pour un gain plus important ont réussi à faire des sourires qui étaient notés légèrement plus authentiques que les autres. Deuxième, que les gens qui voyaient les sourires qui étaient notés plus authentiques étaient plus disposés à faire confiance à l'autre. Et finalement, que les gens qui réussissaient à émettre des sourires qui étaient jugés notés authentiques étaient finalement des partenaires plus fiables. Moralité, il est difficile de faire un sourire authentique. Mais puisque le sourire est authentique, est un signal honnête de votre volonté de bienveillance et de coopération, vous réussissez à le faire plus facilement si vous êtes vraiment disposé à faire confiance à l'autre. Et cette confiance à l'autre est à la base de toute la complexité de notre vie et de notre coopération sociale. Merci.